Ça vous arrive, à vous, parfois, de ne pas être logique? À votre avis, c'est grave? À quoi ça sert d'être logique?
Ça nous permet de résoudre les problèmes, des problèmes complexes, de prédire des choses à partir des connaissances que nous avons, et puis aussi pour une meilleure communication. Prenons l'exemple que vous êtes sur une super plage avec du sable fin et vous avez envie de construire un énorme château de sable. Et si vous avez pas de pelle avec vous, ça va être beaucoup plus difficile que vous avez votre outil. Donc la logique, c'est cet outil-là, c'est prendre des meilleures décisions pour communiquer plus efficacement, comprendre des concept de plus en plus complexe, bien sûr, plus vous êtes fort, plus vous en comprenez, et avoir en fait, en manière générale, un esprit critique.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode où on va commencer par égaliser le tas de sable dans ma tête et découvrir comment développer cette fameuse logique et faire un peu de maths, mais pas trop. Andrea Fabian Montabert est médiatrice scientifique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et autrice du livre « Mais c'est logique » paru aux presses EPFL. Et pour cette amoureuse des maths, la logique c'est...
En fait, la logique, c'est une boîte à outils. D'ailleurs, le père de la logique, Aristote, a écrit un livre sur la logique qui s'appelle Organon. Et organon veut dire outil. Le but de la logique, c'est accéder à la vérité, mais surtout de construire la science à travers des étapes rigoureuses qui se suivent les unes après les autres. Elle permet de prédire des phénomènes non observés à partir des connaissances que nous avons déjà.
Et ça, évidemment, ça peut être cool. Mais avant de me plonger à corps perdu dans ces boîtes à outils, je me demande de quelle logique on parle. À mon humble avis, il doit y avoir plusieurs formes de logique, non?
Il y a plusieurs types de logique et on doit adapter la logique par rapport aux circonstances et par rapport aux problèmes que nous avons. Par exemple, la logique classique, la logique propositionnelle, c'est-à-dire la logique la plus fondamentale. Dans cette logique-là, on examine des phrases un peu particulières que nous appelons des propositions. C'est des phrases qui peuvent être vraies ou fausses. On les relie avec des « ou », des « et », des « si alors », « non ». Et c'est ça qui va nous permettre de construire cette logique-là, petit à petit, et sont illustrées par des énigmes.
Disons que la logique fondamentale nous aide à formaliser, dans le langage, nos discours et le raisonnement. Et c'est aussi celle qui nous permet de résoudre certaines énigmes. Tiens, par exemple, j'en ai une pour vous. C'est l'histoire de deux elfes. L'un qui dit toujours la vérité et l'autre qui ment toujours. Ils se trouvent chacun devant une porte qui mène aux enfers et l'autre au paradis. Quelles questions devez-vous leur poser pour savoir quelle porte emprunter pour sauver votre vie? Réponse plus loin dans cet épisode. Mais cette logique-là, la logique fondamentale, elle ne s'applique pas à tout, j'imagine.
Par exemple, il y a la logique floue, qui fait intervenir des concepts qui sont comme si on regardait un petit peu par un brouillard. Ça veut dire qu'on n'a pas une vérité absolue. Mais la logique floue, c'est comme regarder la couleur grise qui n'est pas tout à fait noire ni tout à fait blanche.
Un exemple de logique floue. Ah, c'est quand vous allez évaluer par vous-même à quelle hauteur vous allez lancer votre boule de pétanque en fonction du cochonnet et des boules des autres.
J'aimerais encore vous parler de la logique modale, parce que c'est une logique que nous utilisons très souvent en linguistique, en philosophie aussi, en informatique. Donc c'est une logique où il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses et des choses qui sont des fois vraies, des fois fausses. Par exemple, dans l'orthographe, il y a des exceptions.
Différentes logiques, donc, pour différentes situations. Mais l'intuition dans tout cela, Moi, je m'imaginais qu'il y a une sorte de logique qui ne se base que sur l'intuition.
Oui, la logique intuitionniste, c'est un truc un petit peu biaisé, parce que c'est la projection que vous avez vous-même sur ce que vous voyez. C'est-à-dire, si quelqu'un essaye de vous expliquer logiquement que le ciel est bleu, ou que vous le lisez dans un livre, ça ne va pas vous satisfaire tant que vous n'êtes pas sorti à l'air libre. Et si vous avez de la chance, le ciel est bleu, sinon il n'est pas bleu, et vous en tirerez les conséquences. Contrairement à cette logique classique, qui est soit vrai, soit faux, c'est comme un jeu de vrai ou faux. C'est comme un match de boxe. Il y a soit un vainqueur, soit un perdant, mais vous ne pouvez pas être tous les deux en même temps.
Ok. Alors maintenant qu'on a fait le tour des différentes logiques, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi il faut des maths pour être logique.
Denis Poisson, qui n'était pas un poisson, mais un très grand mathématicien du 19e siècle, disait « La vie n'est bonne qu'à deux choses, étudier les mathématiques et enseigner les mathématiques ». Alors je ne vais pas être aussi extrême que ça, d'accord ? Comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde qui vous entoure, les mathématiques sont indispensables. Imaginez que vous faites une tournée de Halloween, vous ramassez plein de bonbons dans votre petite boîte. Ben, la première chose, c'est que vous allez le compter, n'est-ce pas? Et vous allez en manger quelques-uns, évidemment. Et ça va vous permettre de prédire déjà combien de bonbons il vous reste pour le lendemain. Donc les mathématiques nous permettent de faire des prévisions. Les mathématiques, ce n'est pas que des calculs et c'est bien plus que ça. Ils nous permettent de résoudre des problèmes complexes, d'exprimer des idées clairement, comprendre les relations, les connexions qu'il y a entre les choses. Reprenons encore l'exemple de ce château de sable. Imaginez que vous voulez construire un immense château de sable. Ben, vous pouvez évaluer la quantité de sable dont vous aurez besoin. Ensuite, vous pourrez mesurer la hauteur du château, le diamètre du château. Vous pouvez également utiliser les mathématiques pour que votre château soit stable. Donc, en fait, les mathématiques vous ouvrent plein de portes sur le monde. Et bien sûr, on peut être de plus en plus complexe parce que ça va nous permettre de faire les sciences, effectivement, mais pour la médecine, pour l'ingénierie, pour plein de choses, en fait.
Donc, on ne peut pas être logique si on n'est pas bon en maths ?
À vrai dire, si vous arrivez à être logique, normalement, vous devriez être bon en maths, parce que les maths sont strictement reliées à la logique.
Ouais. Pourquoi j'ai l'impression de me faire arnaquer ? Et donc, l'instinct ne sert à rien.
Non, alors c'est pas du tout ça, en fait. Être logique, c'est une compétence à acquérir. On ne naît pas comme ça, d'accord? C'est comme un petit grain de haricot qui a la potentialité d'être une jolie grande plante, mais tant que vous n'avez pas mis dans la terre et que vous ne l'avez pas arrosé, ben malheureusement, en fait, il peut pas montrer toute sa potentialité. Donc, être logique, ça se travaille. Maintenant, vous me parlez des instincts. En fait, les instincts, ils peuvent nous tromper, hein? Si on n'est pas logique, on peut même en mourir. Alors même que l'instinct, il ne sert qu'à notre survie. Imaginez, il y a un chat qui tourne devant vous, vous conduisez, et pour ne pas l'écraser, vous faites des appels de phare et vous klaxonnez. Et ben le pauvre chat, souvent, il se fige et vous roulez dessus. Donc en fait, son instinct, finalement, au lieu de l'aider, il l'a trompé. Mais vous, si vous êtes intelligent et vous savez que le chat il peut avoir ce type de réaction, vous allez certainement pas lui faire des appels de phare et klaxonner parce que vous avez justement cette connaissance qui vous permet de savoir que la conséquence pourrait être en fait la mort de ce pauvre chat.
Bonbon, je sais pas vous, mais cette logique... On en parle, mais moi j'aimerais bien des démonstrations et des contre-exemples. C'est quoi ne pas être logique ?
Moi j'aime bien cette phrase déjà, qui dit qu'une erreur peut devenir exacte, il suffit que celui qui l'a commise se soit trompé deux fois. Certains raisonnements sont pas logiques simplement parce que le cheminement de notre pensée flanche quelque part, mais il y a aussi des raisonnements pas logiques parce que c'est de la mauvaise foi. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'il y a un patient qui entre chez le médecin et qui dit « Docteur, je suis à moitié sourd ». Et le docteur, il dit « Monsieur, on ne peut pas être à moitié sourd. Vous êtes, soit vous êtes sourd, soit vous ne l'êtes pas. Bon, je vais vous dire quelque chose dans l'oreille et vous allez le répéter. 88. » Et le patient répète 44. Donc ça visiblement, c'est une logique mauvaise de la mauvaise foi. Et d'ailleurs, il y a un super petit livre, je ne sais pas si vous connaissez, écrit par Schopenhauer, qui s'appelle « L'art d'avoir toujours raison ». Et ce type de mauvaise foi s'appelle des sophismes. Donc Schopenhauer fait toute une liste de ces sophismes, de ces raisonnements de mauvaise foi, et il montre aussi, après chacun de ces sophismes, comment déjouer cette mauvaise foi.
Eh oui, une logique volontairement mal contrôlée peut conduire à de la mauvaise foi. Et l'ouvrage de Schopenhauer a bien évidemment été lu et relu par tous les personnages politiques. Mais on peut aussi être illogique sans être de mauvaise foi.
Vous connaissez bien sûr cette fameuse phrase « Je pense, donc je suis » de René Descartes, qui était un grand mathématicien du XVIIe siècle, philosophe aussi. Et voici une petite histoire. Donc, René Descartes entre dans un bar. Le barman lui demande « Monsieur, est-ce que vous voulez de la bière ?» Et Descartes répond « Je ne pense pas. » Et il s'évapore.
C'est moche. Mais comment déjouer cette erreur flagrante de logique ?
Là, bien sûr, il y a un problème fondamental, n'est-ce pas ? Si je dis « si je pense, alors je suis », ça réciproque « si je ne pense pas, alors je ne suis pas » est faux. Imaginez qu'un être unicellulaire, qui a manifestement pas la capacité de réfléchir tel que Descartes l'entend, il existe aussi, n'est-ce pas ? Donc concrètement, ici, la bonne façon de réfléchir serait « si je n'existe pas, alors je ne peux pas penser ». Et ce type d'erreur est très très fréquent.
Et j'imagine qu'il existe plein de façons de ne pas être logique. Un grand classique, c'est le syllogisme.
Dire « tous les chats sont noirs », c'est un chat donc il est noir. Quel est le problème ? Est-ce que vous voyez le problème avec cette affirmation ?
Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu un chat noir, mais aussi un chat roux.
Exactement. C'est ça. Donc, à partir d'une hypothèse fausse, on peut, en fait, conclure n'importe quoi. En latin, on dit « ex falso quod libet ». Donc, c'est une erreur extrêmement fréquente.
Ah, on peut déduire ce qu'on veut à partir d'un truc faux. Une contradiction, en somme.
La contradiction, c'est de dire une chose et son contraire en même temps. Par exemple, si je dis « j'ai toujours raison, même quand j'ai tort », c'est une contradiction. Et franchement, la contradiction dans la vie courante, ça peut être vraiment difficile à gérer. Et des fois, on s'en rend même pas compte, parce que bien sûr, dans cette phrase, elle est plutôt simple. Mais il y a des situations où c'est beaucoup plus imbriqué, et puis ça résulte des situations difficiles à gérer.
Et est-ce qu'on pourrait être illogique à force d'être trop logique ?
Si je dis 100% des vainqueurs ont tenté leur chance, c'est une évidence, n'est-ce pas ? C'est une tautologie. Si je dis c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est une façon un peu passive-agressive de s'exprimer, mais en fait ça veut dire la même chose, n'est-ce pas ?
Oui, ça veut dire la même chose, et même que ça a la même signification. Bon, maintenant que je vois tous les pièges qui peuvent entraver ma logique, je fais quoi ? Comment je pourrais l'entraîner ?
Il y a plusieurs façons de le faire. On peut bien sûr résoudre des énigmes. C'est la logique classique la plus fondamentale. C'est pas la seule façon de faire, n'est-ce pas ? On peut jouer aussi à des jeux de stratégie, le go, les dames, les échecs. Mais on peut aussi faire des mathématiques. Les mathématiques, c'est très intéressant. Faites-en souvent, faites beaucoup d'exercices parce que vous allez voir des situations qui vous font réfléchir et qui développent vraiment bien votre logique. Aussi, il faut se dire que développer sa logique, ça ne va pas d'un jour à l'autre. Hein. On ne devient pas un expert tout de suite. Donc il faut être patient, il faut s'entraîner comme on entraîne son corps pour être plus musclé. C'est un petit peu la même chose. L'important, donc, c'est de s'entraîner régulièrement. Et ça va vous permettre de continuer à progresser.
Déjà que je dois faire du sport.
Andrea Fabian Montabert propose dans son livre « Mais c'est logique » plein d'exercices pour s'entraîner. Elle propose notamment de recourir à des tables de vérité. Waouh ! Des tables de vérité. Ça en jette.
C'est pas aussi biblique que ça, mais en fait, ces tables de vérité sont là pour simplifier, en fait, l'écriture et la compréhension de ces propositions. Mettre les choses les unes avec les autres et puis regarder quelles sont ou quelles sont les possibilités.
Vous avez compris? Essayons avec deux affirmations.
Le chat est noir et il saute. En tout, il y aura combien d'options? Il y aura 4 options, parce que il se peut que le chat soit noir, mais il ne saute pas. Ou alors le chat saute, mais il n'est pas noir. Le chat n'est ni noir et il ne saute pas. Ou alors le chat est noir et il saute. Et à quel moment ça va être vrai? Uniquement quand le chat est noir et le chat saute. Alors que dans les autres cas, cette proposition va être fausse.
Et je commence à comprendre. La table de vérité nous montre tous les scénarios possibles à partir de plusieurs propositions. Le chat est noir et il saute. 4 possibilités, dont une vraie. Le chat est noir ou il saute. Toujours 4 possibilités, mais 3 vraies. Ce type d'exercice, ils sont utiles pour nous, simples mortels, pour développer notre logique. Et les outils mathématiques qui ont été développés pour formaliser cette logique sont super utiles en informatique ou dans la conception de circuits électroniques. C'est l'algèbre de Boole, c'est la base, bref, c'est super utile. Et pour cela, il a fallu développer toute une série de symboles pour décrire les liens entre les éléments auxquels on applique une logique.
La logique a aussi un rôle de transmission. Donc, en fait, les symboles que nous utilisons, on les utilise aussi en Afrique du Sud, en Océanie, et puis ça nous permet, en fait, de se comprendre. Si j'écris 3 plus 3, quelqu'un qui est en Amérique du Sud va strictement comprendre 3 plus 3. Donc, en fait, c'est les symboles qui vont nous permettre aussi de communiquer.
Et d'avoir un langage commun. Mais certains de nous sont plus doués en langue que d'autres. Pour la logique, c'est pareil, non?
Tous les humains ont le potentiel de comprendre et d'appliquer principes de logique, les règles, sans distinction d'origine, de sexe ou de tout autre facteur. Cependant, la capacité des gens à appliquer la logique peut varier d'une personne à l'autre, selon son éducation, son expérience, aussi selon ses capacités cognitives. Il y a certaines personnes qui ont un talent naturel pour être logique et d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps pour apprendre et d'un peu plus d'explications. Quelque part, tout le monde a le potentiel de comprendre et appliquer la logique, mais l'application de la logique peut varier en fonction des facteurs individuels. Peut-être pour dire qu'il n'y a pas forcément une logique humaine, car ces principes logiques, ils sont universels.
Alors les animaux sont si doués de logique?
Oui, parce que il y a par exemple le corbeau, n'importe quel autre oiseau, ils arrivent quand même à dénombrer les œufs qu'ils ont. Les chiens arrivent à faire des conclusions à partir des connaissances qu'ils ont. Oui, bien sûr. Après, l'unicellulaire, je sais pas comment elle réfléchit. Je suis pas biologiste, mais elle a certainement, en tout cas, les stratégies pour survivre aussi, hein.
Pour en revenir à la science et à la logique,
Y aurait-il des domaines de la science qui échappent à notre logique? Parce que franchement, moi, quand je pense à la physique quantique, je dois dire que je comprends et je ne comprends pas en même temps.
Alors, il n'y a pas de domaine scientifique où la logique ne s'applique pas, parce que la logique a justement le rôle de construire la science. Quand vous parlez de physique quantique, certaines observations peuvent sembler totalement illogiques, mais il est important de noter que la logique quantique est une logique différente de la logique qu'on connaît. Elle est fondée sur des principes quantiques, mais c'est une logique quand même.
Si développer la logique permet d'appréhender le monde, de le comprendre et de le prédire, j'ai parfois l'impression qu'elle nous enferme. Et tiens, sur ce coup-là, c'est moi qui vais brandir une citation. La logique est le dernier refuge des gens sans imagination. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oscar Wilde. Comment penser hors de la boîte si on se transforme toutes et tous en êtres hautement logiques?
La logique, c'est comme un jeu de construction. Votre crainte, c'est que ce soit comme une boîte de Lego qu'on reçoit et vous voulez construire un joli avion et vous allez suivre les instructions pas à pas. Mais des fois, on peut avoir envie de construire quelque chose de différent, d'assembler ses pièces autrement ou d'avoir d'autres types de pièces ou un nouveau moyen d'utiliser des pièces ou d'en inventer d'autres. On peut bien sûr penser hors la boîte en étant totalement logique. La logique, c'est pas une prison, c'est plutôt une liberté. On peut regarder les choses sous un angle différent, d'utiliser notre imagination, de penser de manière créative, tout en suivant les règles de la logique qui nous permettent ensuite de tirer les conclusions et le sens de ce qu'on a fait. Et malgré tout, de créer quelque chose d'unique.
Alors c'est vrai, promis, hein, ça tuera pas ma créativité?
En fait, la créativité, c'est quelque chose qui vient de nos intuitions, qu'on ressent, etc. Mais je réfléchissais à ça en venant vers vous, et je me suis dit, on utilise, qu'on veuille ou non, une certaine logique, parce que si vous voulez peindre, faire une jolie peinture, vous n'allez pas commencer à sprayer dans l'air. Vous savez que vous devez prendre une toile ou alors un mur ou quelque chose comme ça. Il vous faut un support. Donc vous avez des connaissances qui vous permettent de tirer des conclusions pour exprimer votre créativité.
Je ne sais pas si j'ai progressé en logique, mais en tout cas, je suis rassurée. Il n'y a pas de fatalité en matière de logique. Et pour en revenir aux elfes, avec celui qui dit la vérité et l'autre qui ment, vous vous souvenez, ils se trouvent chacun devant une porte, l'une qui mène aux enfers et l'autre au paradis. Quelles questions devions-nous leur poser pour savoir quelle porte emprunter pour sauver notre vie ? Si vous aimez les devinettes, transmettez-les-moi sur microscience@rts.ch, microscience en un seul mot et au pluriel. Et si cet épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, en toute logique, sur Play RTS, Apple Podcast ou Spotify. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans Camille Dupont-Lahitte, coproductrice reine de la sagesse, David Golan, cartésien du son et de la voix, Jérôme Nussbaum, intuitionniste, habilleur musical, Andrea Glanville, méthodique, attachée de production. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique qui cherche un sens, et en général le bon. Bon alors ces elfes, vous avez trouvé ? Il faut leur demander quelle porte m'indiquerait ton compagnon ? Ah ben si, parce que celui qui ment indiquera la porte qui mène aux enfers, et celui qui dit la vérité indiquera aussi la porte qui mène aux enfers. Et donc, vous emprunterez l'autre porte.